pratiquement 19h. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour passer ce week-end dans votre compagnie.
Putain,
ils veulent avoir leurs examens en fin d'année, c'est mieux de les réviser. Parce qu'il n'y aura pas d'examen en chocolat. Voilà.
Pension de retraite, pourquoi cette faible revalorisation de la part du gouvernement ?
Fausses offres d'emploi pullulent sur le réseau de Pôle emploi.
Une question de santé publique et donc économique qui intéresse les entreprises.
La procédure fait intervenir un huissier qui vient notifier l'expulsion avant démolition.
Oui ou non, interdire le burkini, ce maillot
connerie cette fois-ci, c'est sûr, je l'éteins là, je l'éteins la télé même je l'éteins à tout jamais, tu vas voir ce qu'elle va voir, c'est qui ?
Oh René, tous les vendredis, c'est pareil, une télé explosée, hein ? La plus rebelle des radios, la plus rebelle des radios. Wow.
Bonsoir, vous êtes sur Radio Canu, il est 19h et quelques minutes et c'est l'heure du Canu Info. Et donc aujourd'hui au Canu Info, on va vous parler d'abord en local de Lyon 2 qui refuse d'augmenter les droits d'inscription des étudiants étrangers et étrangères.
On continuera avec un petit point agenda.
Et ensuite on filera tout de suite au National pour vous parler de 3 centres de rétention qui sont en lutte.
Ensuite, on vous parlera de reconnaissance faciale au lycée, l'expérimentation avant la généralisation.
On ouvrira ensuite un dossier gilet jaune et on vous parlera des nouvelles armes des CRS.
Ensuite, on vous parlera de Macron qui s'est fait un petit peu chahuter.
On vous diffusera un petit reportage réalisé dans les manifs lyonnaises de samedi.
On reprendra quelques propositions stratégiques qui ont été faites par le site Paris Lutte Info.
Et on vous parlera de l'acte 10 des Gilets jaunes à Lyon.
Et on terminera ce dossier Gilets jaunes en évoquant un bilan assez sale des violences subies par les manifestantes et manifestants.
Ensuite, on passera à la rubrique internationale et on parlera notamment de l'extradition de César Battisti.
Cesare,
pardon.
On ouvrira la rubrique féminisme avec les femmes dans la rue contre l'extrême droite en Andalousie, bien sûr.
Et on finira par l'agenda et peut-être un ACAB ce soir, encore une fois.
Bonne écoute sur Radio Canu.
Reportage sur le rassemblement qui a eu lieu à Lyon cette nuit.
Du Rhône de la région qui s'appelle Stéphane
Boulay. En région lyonnaise, plus précisément à Pierre-Bénite.
Pour savoir où est-ce qu'on en est, la lutte des instits à Voix-Rouvelin.
Petit reportage sur la grève du
Canu. Les agents jouent
sur la base du rassemblement pour le droit de l'homme. Les agents de l'Opéra de Lyon.
Canu Info du vendredi. Rubrique locale.
Allez, on commence par une plutôt bonne nouvelle, c'est assez rare dans le Canu Info, et parce que l'Université Lyon 2 a publié un communiqué sur Internet pour annoncer qu'elle n'augmenterait pas les frais d'inscription pour les étudiants étrangers vivant en dehors de l'Union Européenne. On ne sait pas si vous vous souvenez, c'était dans toutes les réformes Macron sur l'université et les lycées, un petit plan stratégique intitulé bien sûr « Bienvenue en France pour les étudiants étrangers », avec l'idée de leur permettre d'avoir une scolarité un petit peu mieux, plus de moyens et tout ça. candidats. Et donc, c'était quoi l'idée ? C'était d'augmenter leurs frais d'inscription, bien sûr. Comme ça, l'université aurait plus d'argent pour les aider. Donc concrètement, par exemple, ça aurait fait que des étudiants étrangers, ils passaient de 170 euros la licence à l'année à 2770, ou encore de 243 à 380 en master. Et attention, le doctorat à 3770 euros. Voilà le plan Bienvenue en France qui était prévu par Macron et toute la clique, qui a d'ailleurs été voté, il me semble qu'il sera appliqué dans les autres universités qui n'ont pas dit qu'elles ne l'appliqueraient pas. Du coup, l'université Lyon 2 refuse d'appliquer ça en rappelant que ça déroge au principe d'égalité devant le service public, que ça fait le tri entre des étudiants qui auraient les moyens de venir faire des études en France et d'autres pas, et donc le tri entre des classes sociales ou des pays. Et puis, voilà, du coup, ils se sont prononcés contre ça, ce qui est plutôt chouette.
Et de façon complètement exceptionnelle, on vous fait un point agenda dans la rubrique locale, parce qu'il y a des événements qui sont en train de se passer à Lyon et vous avez peut-être envie d'y aller. Donc tout d'abord, il y a une soirée trappe paillettes contre la répression policière ce soir à l'atelier des Canulars, en soutien avec les interpellés du 1er mai 2018. Pendant la dernière manifestation du 1er mai 2018 à Lyon, deux manifestants avaient été interpellés et placés en garde à vue pendant 24 heures pour finalement passer en comparution immédiate au tribunal des grandes instances. L'un d'eux a été accusé de dégradation des biens publics et privés et de dissimulation de visage et condamné à 3 mois de prison avec sursis et 500 euros d'amende. Comme si cela ne suffisait pas, il fut également placé sous OQTF, obligation de quitter le territoire français, par le tribunal administratif pour la durée d'1 an, l'obligeant donc à abandonner son projet académique. Donc cette décision a été contestée devant la cour d'appel du tribunal administratif et cette décision a été annulée grâce à l'engagement des avocats et avocates et des soutiens extérieurs. Mais le parquet a fait appel. Le camarade a été convoqué une nouvelle fois, cette fois-ci devant la cour d'appel du palais de justice de Lyon. Bref, au final, il a dû effectuer un stage de citoyenneté et payer une amende de 500 euros qu'il a assumé en totalité lui-même. Donc, au final, 4 passages au tribunal plus tard, ce camarade en finissait une bonne fois pour toutes avec cette odyssée judiciaire. Quand même avec une grosse dette économique, parce que au-delà de l'amende de 500 euros, il y a eu les honoraires d'un des avocats, les frais judiciaires et le paiement du stage de citoyenneté. Du coup, il y a une partie de ces frais qui ont été payés grâce à la caisse de solidarité, mais il reste encore un bout à assumer. Et c'est pour cela qu'il y a cette soirée de soutien, du coup, qui commençait à 18h, à l'atelier des Canulars, avec cantine végétarienne et végane, avec musique urbaine et piste de danse, avec une table de presse. Donc, ils seront présents l'unité communiste de Lyon, le groupe antifasciste de Lyon et environ, les cantines antispécistes. Donc, allez-y vite.
Mais sinon, si vous voulez aller un petit peu plus près de Radio Canu, vous pourrez aller à la salle des Ovalistes parce qu'il y aura ce soir une fête de soutien à Kélé. Kélé est un jeune Guinéen qui est arrivé en France en 2014 et qui est aujourd'hui majeur, mais qui subit un véritable acharnement dans la préfecture et est menacé d'expulsion. C'est pourquoi RESF 69 et le collectif Soutenez Kélé organisent une soirée festive et culturelle de solidarité, donc ce soir à 19h à la salle des Ovalistes. La salle des Ovalistes, c'est où, me direz-vous? Eh bien, c'est 6 impasse Flessel à Lyon 1er. Et qu'est-ce qu'on pourra y faire? Eh bien, on pourra y faire une fresque participative. On y verra la fanfare Fame, la chorale des chanteurs sans papier, l'atelier d'écriture dans tous les sens, la compagnie de théâtre Vaninga et les chanteuses Michel Bernard, Claudine Lebeg et Hélène Grange. Et plein d'autres surprises. Alors, filez vite à la salle des Ovalistes.
Rubrique nationale.
Je ne céderai rien. Ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes.
Il y a, d'un côté, un nouveau totalitarisme, et c'est nous.
C'est pourquoi j'ai décidé qu'en novembre prochain, nous sortirons de l'état de droit.
Grand pavé, énorme à lancer. et bienvenue à la rubrique nationale. On va d'abord vous parler d'une lutte qui a lieu dans les centres de rétention administrative depuis quelques semaines. Depuis le 3 janvier, une quarantaine de personnes retenues dans les centres de rétention de Vincennes, en région parisienne, observent une grève de la faim. Ils ont été suivis mardi 8 janvier par environ 7 personnes migrantes enfermées dans le centre de rétention du Mesnil-Amelot, à proximité de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, au nord de Paris. Le 11 janvier, c'est au centre de rétention d'Oisselles, en Seine-Maritime, qu'une grève de la faim a commencé. Les centres de rétention administratifs sont des lieux de privation de liberté où s'entassent les migrants et migrantes en situation irrégulière, en attente de leur expulsion. Il existe à ce jour 25 centres de rétention administrative sur le territoire français. Selon la CIMAD, 47 000 personnes sont passées en centre de rétention en 2017. Le centre de rétention, s'il ne dépend pas légalement de l'administration pénitentiaire, ne ressemble pas moins à une prison. Policiers présents partout, cellules d'isolement, barbelés, grilles, haut-parleurs, miradors. Tout est inspiré de l'univers carcéral, dénonçait la CIMAD dans son rapport 2017. Les personnes retenues dénoncent leurs conditions de vie, manque d'hygiène, d'intimité, nourriture dégueulasse, harcèlement, non accès aux soins, violences policières, violences sexuelles. Il et elle s'élèvent aussi contre une nouvelle disposition prise dans la loi Asile et Migration l'an dernier, à savoir le passage de 45 à 90 jours de la durée maximale de rétention administrative. Enfin, les grévistes dénoncent ce qu'ils appellent les vols cachés. Les migrants et migrantes sont prévenus au dernier moment de l'avion dans lequel ils monteront. Ainsi, ils et elles n'ont pas la possibilité de rassembler leur soutien à l'extérieur. Et cela évite qu'ils se cachent en amont de l'expulsion, précise la CIMAD. Voici quelques extraits des communiqués écrits ces dernières semaines par les grévistes enfermés dans les centres de rétention de Vincennes, Mesnil-Amelot et Oisselles.
Le premier extrait date du 3 janvier. Il vient donc des retenues du CRA du centre de rétention administrative de Vincennes. Vous avez pu l'entendre sur les ondes lundi, mais leur parole est tellement rare qu'on la redonne. On a tous une histoire différente, qu'on soit travailleur, étudiant depuis peu en France ou vivant ici depuis presque 20 ans. Et on a tous le droit de vivre ici, où on a nos attaches. Mais nous sommes enfermés dans ce centre de rétention. Si on s'est mis aujourd'hui en grève de la faim, c'est aussi pour dénoncer tout ce qui se passe dans cette prison. Ces derniers jours, il y a eu beaucoup de vols cachés et violents. Des anciens d'ici nous ont raconté qu'il y a plusieurs années, la police, ici, était déjà violente. Il y a eu des copains tabassés, puis déportés en étant casqués, bâillonnés et scotchés. Il y a eu des copains drogués qui se sont réveillés de retour dans un pays où ils ne connaissaient plus grand monde. Les policiers ne respectent la loi que quand c'est contre nous. Même quand légalement on devrait être libéré, souvent le juge n'en a rien à foutre et la police te déporte quand même.
Un autre témoignage qui nous vient de Oisselles, en Seine-Maritime, Normandie. Déjà, la bouffe n'est pas bonne, rien n'est propre. Quand on mange, les policiers ils nous regardent et utilisent leur smartphone. On a l'impression qu'ils nous snappent. Ce qui est sûr, c'est qu'ils se moquent de nous. Ici, on ne nous respecte pas. Pour boire de l'eau, c'est aux toilettes. Si tu tombes malade, c'est qui te soigne? Pas la police en tout cas. On nous traite comme des animaux. Et pendant les visites, la porte continue d'être ouverte et les policiers continuent de nous écouter. Ils continuent de nous empêcher tout contact avec nos proches, même de faire la bise à ta femme. Ici, il y a eu des histoires de viol pendant la fouille. On a décidé de ne pas tout casser, parce qu'on ne veut pas se faire accuser d'anciens tolards vénères. Pourtant, il y a de quoi ici. Nous revendiquons la fermeture des centres de rétention qui n'est plus en état d'accueillir des humains dignement. La fin des violences policières au centre de rétention et pendant les déportations. La fin des condamnations inutiles à de la prison, comme quand on est condamné pour avoir refusé d'aller voir le consul. Un véritable accès aux soins. Le respect de l'intimité des parloirs et des parloirs qui durent plus longtemps. La fin de l'isolement qui est un moyen de pression à l'intérieur. C'est un endroit où on nous torture moralement et physiquement. La fin des actes racistes de l'administration ou de la police. Le 27-12-2018.
Et ce constat est partagé par les retenus du centre de rétention numéro 2 de Mesnil-Amelot, qui ont publié un communiqué le 8 janvier au soir. Ici, les conditions d'enfermement sont désastreuses, la nourriture est immonde. Ici, pour aller à l'infirmerie, il faut faire la queue alors qu'il fait très froid à cause de l'hiver. Ici, les infirmiers sont arrogants et généralement ils ne donnent que du doliprane et même quand tu as quelque chose de cassé, ils ne font pas de bandage, ils te donnent juste de la crème. Ici, les policiers font la loi. Si tu te plains, tu vas direct à l'isolement. Ici, il y a plein de gens qui ont subi ce que l'on appelle la double peine, condamnés à de la prison et à leur sortie directement ramenés au centre de rétention. Au bâtiment des femmes, une prisonnière a été violée par un policier avant les fêtes de fin d'année et rien n'a été fait pour elle. À Ménil-Amelot, il y a souvent des vols cachés, tôt le matin. Il y a de l'isolement où tu peux être enfermé avant le vol. Il y a tous ces anciens retenus qui ont été renvoyés de force, casqués et scotchés. On exige la fin des vols cachés, la fin des déportations violentes et l'interdiction d'utiliser des charters pour déporter. On en a marre du racisme quotidien de la police. Toutes ces pressions et humiliations sont là pour briser notre morale, celui des retenus. On appelle les autres retenus de France à lutter avec nous contre l'enfermement pour 3 mois, juste parce qu'on est sans papier. On appelle à de la solidarité à l'extérieur. Liberté pour tous.
Et du coup, c'était des extraits, hein, pas l'intégrité des communiqués qui ont été rédigés par des retenus de ces 3 centres de rétention. Ce qui est sûr, c'est que les grèves de la faim sont très très dures à maintenir dans la durée. Et du coup, elles ont un peu cessé pendant cette semaine. Ce qui rend de plus en plus, d'autant plus important de relayer cette lutte à l'extérieur. Si la pratique de la lutte de la faim pose ses limites à l'intérieur, les copains et copines enfermés veulent continuer quand même à résister et à lutter pour empêcher les déportations, et ils ont bien évidemment besoin de beaucoup de soutien. Du coup, il y a deux rendez-vous qui sont prévus en région parisienne. Le premier, le lundi 21 janvier à 19h au RER Joinville-le-Pont, sur le RER A direction Boissy-Saint-Léger, sortie 1. Et un autre rendez-vous mercredi 23 janvier à 18h à l'Écharde, 19 rue Garibaldi à Montreuil, métro Robespierre, ligne 9, pour continuer à organiser la solidarité de dehors.
Et donc maintenant on m'entend ou pas? Ah oui, si, c'est bon, on m'entend. Maintenant, je vais vous parler donc d'un tout autre sujet, puisque je vais vous parler de la reconnaissance faciale qui est en train de se mettre en place dans certains lycées. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et ben, le mi-décembre dernier, donc 2018, le conseil régional de PACA a voté une mesure visant à faire installer donc à partir de 2019 des dispositifs de reconnaissance faciale à l'entrée de 2 lycées, donc de Nice et de Marseille. Donc en fait, de quoi s'agit-il exactement? En octobre 2017, donc Renaud Muselier, président de la région PACA, demande les conseils de la CNIL pour la mise en place dans 2 lycées de Nice et de Marseille de dispositifs de, donc, je cite, portiques virtuels associant des moyens classiques d'identification à un dispositif biométrique utilisant des technologies de comparaison faciale. Waouh! Cette nouvelle étape est la suite logique de la politique de la région, donc qui est une politique sécuritaire, qui a conduit entre 2016 et 2017 à ce que plus de 1300 caméras de vidéosurveillance soient installées dans l'ensemble des lycées de la région. Donc ce qui est énorme. Donc la région PACA présente ainsi à la CNIL son projet visant à sanctuariser, entre guillemets, les entrées et les sorties dans les établissements secondaires. Il s'agit non seulement de reconnaissance faciale, mais plus largement également d'un dispositif de suivi de trajectoire de certains visiteurs. C'est comme ça qu'ils appellent les lycéens. Un logiciel installé et couplé à une caméra permet de détecter des points de comparaison faciale déterminés par un algorithme et de le comparer avec ce stocké dans une base de données. Un écran mis à la disposition des agents de contrôle permet alors de visualiser 3 types de profils. Les profils verts pour les personnes autorisées à pénétrer dans l'enceinte du lycée. Les profils jaunes pour les personnes non identifiées et invitées à se présenter à l'accueil. Et rouges pour les personnes non identifiées et qui ne sont pas dirigées dès leur entrée vers l'accueil. Et donc voilà. Et là, on parle bien de lycée. Évidemment, ça paraît complètement hallucinant. Il est par ailleurs précisé qu'il s'agit pour l'instant d'une expérimentation limitée dans le temps et fondée sur le consentement explicite de volontaires au sein des établissements visés. Donc voilà, donc évidemment, expérimentation limitée dans le temps. Là, pour le coup, j'ai pas d'infos pour vous dire le limité dans le temps, jusqu'où ça va aller. Alors que la CNIL avait appelé en septembre 2018 à un débat urgent sur ces nouveaux usages de caméras vidéo, et qu'elle soulignait elle-même d'ailleurs les risques considérables d'atteinte aux libertés individuelles de cette technologie, que cette technologie entraîne, la CNIL, dans cette histoire, n'a opéré qu'un suivi très très souple, voire accommodant de ce projet. Tout d'abord, il y a depuis l'entrée en vigueur de la RGPD, donc qui est le nouveau règlement de protection des données individuelles européen. Donc ça, c'était en mai 2018. Les responsables de traitement des données personnelles n'ont du coup, en principe, plus à réaliser de formalités auprès de la CNIL. Donc elle se fait court-circuiter avant la mise en œuvre donc du traitement, tel que par exemple obtenir son autorisation dans certains cas. Le contrôle de l'autorité se fait qu'a posteriori, conformément donc à ce qui est décrit dans le RGPD. Dans certains cas, et notamment la reconnaissance faciale, ça doit faire l'objet d'une analyse d'impact. Donc là, c'est le cas. Le consentement des utilisateurs est désormais censé fournir une base légale suffisante pour le déploiement de ces systèmes. Donc voilà, il n'y a plus besoin de voilà, c'est juste l'accord des personnes ciblées qui font pourtant entrer la surveillance donc dans cette nouvelle ère de en tout cas pour les lycées. En supprimant le pouvoir d'autorisation donc de la CNIL sur ces dispositifs, et ben là-dessus le RGPD qui se vantait justement de protéger les données personnelles, là il y a un recul concernant ces dispositifs-là. Donc du coup la CNIL s'est juste contentée de demander des précisions à la région sur le dispositif envisagé et sur certains points de fournir des recommandations. Donc c'est d'ailleurs suite à l'une de ces recommandations que la région a décidé que le stockage des données biométriques ne se ferait pas sur une base de données mais sur un support individuel. Donc ça, quand on parle de support individuel, faut comprendre un peu les badges ou par exemple le passeport biométrique, par exemple, c'est un support individuel. Donc voilà, donc ils ont changé le support, bon bref, super. Et contrairement, donc du coup, parce que comme la CNIL a donné un peu son avis sur la question, donc la presse et notamment Christian Estrosi a annoncé, crié haut et fort, que la CNIL avait donné son feu vert à ce dispositif, mais alors que en fait la CNIL a juste dit ben voilà, en fait on vous dit faut pas stocker les données sur des bases de données, etc. Alors pourtant, en laissant se développer ce type de technologie à des buts sécuritaires, sans qu'il ne soit apporté un seul moment la preuve de la pertinence d'un tel dispositif par rapport au système existant, sans même une réelle réflexion sur la nature du consentement que peuvent donner des mineurs à l'égard d'une expérimentation au sein de leur lycée, la CNIL, ben, du coup, participe à la banalisation de ces technologies. Elle devient, pour ainsi dire, l'alibi au développement d'une surveillance qui se généralise de plus en plus et qui sera au cœur de ce qu'on appelle, donc ça vous avez certainement déjà entendu parler de ce terme, des safe cities ou des smart cities, pour faire très moderne, donc qui commencent un peu à émerger un peu de partout en France. Car sur le qualificatif, donc là je vais revenir sur le terme d'expérimentation, parce que sur le qualificatif faussement tranquillisant d'expérimentation, donc qui est mis en avant par Estrosi et Muselier, ces derniers souhaitent en réalité, ils l'ont d'ailleurs annoncé eux-mêmes lors de l'assemblée plénière du conseil régional, donc ils veulent plutôt étendre ce dispositif de reconnaissance faciale à l'ensemble des régions, des lycées de la région. Et je cite, avec ces deux expériences, une fois que nous l'aurons démontré, nous irons très vite sur la généralisation à partir du réseau de vidéosurveillance déjà existant. Parce qu'évidemment, ils ont installé 1300 caméras un peu de partout, sur lesquelles il ne restera plus qu'à mettre le logiciel qui correspond à l'usage de la reconnaissance faciale par rapport aux caméras déjà installées. Donc l'expérimentation des lycées de Nice et de Marseille s'inscrit donc dans une réalité parfaitement qui s'inscrit dans les divers projets qui sont déjà particulièrement avancés dans ces deux villes, à savoir l'observatoire Big Data de la tranquillité publique, donc ça c'est à Marseille, et le concept de Safe City, et ça c'est plutôt à Nice. Donc voilà, une nouvelle brique donc au développement toujours plus rapide et incontrôlable de ces nouvelles technologies. Et juste pour terminer, je dirais que ça profite aussi à un autre acteur qui est la société Cisco, qui finance donc cette expérimentation et qui va donc profiter des lycées pour aller finir d'élaborer son système de surveillance vidéo. Et voilà, j'ai terminé pour ce petit sujet.
Ce que je veux,
Canu c'est Info.
Que vous, partout, vous alliez le faire gagner, parce que c'est notre projet. Vive la République! Vive la France!
Mouvements sociaux.
Mais notre règne arrivera quand votre règne finira.
Rien et personne ne pourra étouffer une révolte.
Tu as semé la graine de la haine, donc tu la récoltes.
Les rebelles et les rebuts ont tous opté pour le boycott.
Faisons en sorte que les aisés nous lèchent les bottes.
On espionne là?
Non, je ne veux pas.
Ouais, bah, c'est gendarmerie nationale. Et en plus, c'est j'ai vu qu'il perd, certains.
Non,
ouais, ouais. Écoute, bordel là! Gendarmerie nationale! Arrêtez un peu les conneries là, non?
Et faut arrêter un peu les conneries. La police, elle n'arrête pas. Et d'ailleurs, c'est une première. Depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, samedi dernier, certains CRS ont été autorisés à s'équiper de fusils d'assaut lors d'opérations de maintien de l'ordre, comme ils disent. C'est ce que nous révèle Le Canard cette semaine. Le Canard enchaîné. Le 10 janvier à 10h48, un télégramme émanant du ministère de l'Intérieur ordonne ainsi au patron de compagnie, je cite, d'appliquer systématiquement et obligatoirement deux instructions. Primo, chaque commandant de compagnie veillera à prééquiper un binôme observateur-tireur, ce qu'on appelle dans le jargon policier un BOT, en capacité de se déployer immédiatement. En clair, ça veut dire qu'un tireur d'élite flanqué d'un guetteur avec jumelles sera positionné sur, je cite là encore, des points hauts, c'est-à-dire les toits des immeubles. Ça ressemble un peu à la guerre quand même, hein. Un taf habituellement confié aux tireurs d'élite des unités antiterroristes. Secondo, nous dit ce télégramme du ministère de l'Intérieur, déploiement systématique de, et alors là je cite, les deux HKG-36, et derrière ce mot barbare, ce sont les tristement fameux fusils d'assaut qui viennent d'apparaître, et donc dont la police est dotée, les gendarmes aussi, enfin je dis qu'ils viennent d'apparaître, mais je dis des bêtises, puisqu'ils datent de l'attentat au Bataclan le 13 novembre 2015. Hein. Ils ont été donc, les policiers et les gendarmes, dotés de ces fusils après les attentats. Et alors, le directeur central des CRS, interrogé sur ces deux mesures qui datent donc du 10 janvier, et que je viens d'égrener ici, les justifie en disant, et c'est un peu marrant, je le cite, « Si nos hommes portent leurs fusils d'assaut, c'est pour ne pas se les faire voler dans le camion. » Hein, puisque vous savez, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais en début de mouvement des Gilets jaunes, il y a un camion de CRS qui s'était, ou une voiture, je ne sais plus bien, qui s'était fait piquer un fusil. Voilà, le même Philippe Kleiman, donc ce directeur de centrale des CRS, qui en 2015 justifiait la création des binômes tireurs d'élite, hein, les BOT, au nom de la menace terroriste, et donc de là à dire que contre les Gilets jaunes, le maintien de l'ordre applique les mêmes méthodes, eh bien, il n'y a qu'un pas à faire et que l'on veut bien faire. Alors, circulaire quand même inquiétante, puisque, et on va le dire maintenant, les flashballs, les différentes grenades, les gaz et les tonfas sont responsables depuis ce mouvement qui a débuté mi-novembre de nombreuses mutilations. Et quant aux grenades, il y a même eu, on vous le rappelle, une personne qui est morte à Marseille, une autre qui a été dans le coma à Bordeaux la semaine dernière.
Et oui, parce que Tech News réalise un comptage plus que choquant, effectivement celui des blessés graves dus aux forces de l'ordre avant même l'utilisation du coup de leur fusil d'assaut. La dénomination du coup blessé grave est bien sûr subjective en fait, et du coup c'est un certain nombre de blessures différentes et de gravité en fait différentes qui ont été regroupées. Donc il y a certaines personnes qui du coup vont garder une infirmité à vie, donc on a perdu une main, un œil, un pied, alors que d'autres s'en tireront juste avec des cicatrices. Du coup dans ce comptage, Tech News a retenu comme blessures graves les membres arrachés, les organes ayant perdu leur fonction principale, les fractures, les pieds et jambes incrustés de bouts de grenade, les blessures graves, mais aussi toutes les plaies ouvertes au niveau de la tête. Ce qui fait que tous les hématomes, parfois exceptionnellement vastes, qui ont pu être causés par des tirs de lanceurs de balles de défense ou des coups de matraque, n'ont pas été comptabilisés. Et sachant aussi que Check News en fait ne retient que les blessés qui sont mentionnés par d'autres journalistes ou qu'ils trouvent sur les réseaux sociaux, mais qui sont attestés par plusieurs personnes. Donc ce décompte est nécessairement largement en dessous de la réalité, mais du coup rend compte un petit peu de la violence importante dont ont fait preuve les forces de l'ordre, parce que du coup depuis le 17 novembre, Check News a ainsi dénombré 94 blessés graves. 69 de ces blessés graves ont déclaré avoir été touchés par des tirs de lanceurs de balles de défense, dans la grande majorité des cas à la tête, et cela fait 14 personnes qui ont perdu leur œil, selon Check News du coup, et un certain nombre de personnes aussi ont fini dans un coma artificiel, comme cette semaine à Bordeaux.
Et on va continuer de parler de la manière dont notre gouvernement chéri gère cette histoire de gilets jaunes et de lutte sociale, puisque à côté de toute cette grande répression sanglante est lancé bien sûr le grand débat national. Vous en avez entendu parler partout, ça a commencé mardi et ça a commencé à Bourtereulde, une petite ville de l'Eure. Alors comment ça s'est passé à Bourtereulde pour lancer ce grand débat national? Et bien comme tout grand débat national, ça fait venir un président et puis des ministres. Et pour faire un grand débat, qu'est-ce qu'il nous faut? Il faut commencer par interdire la circulation dans la petite ville. Et puis, c'était dans un arrêté de la préfecture. Et puis, au-delà d'interdire la circulation, interdire aussi la vente à emporter de carburant ou de produits inflammables. Et puis aussi fermer les banques. Et qu'est-ce qu'on fait d'autre pour organiser un grand débat? Et bien finalement, on fait fermer les commerces un petit peu partout dans le village. Puis tiens, pourquoi pas les commerces autour. Mais c'est pas tout, parce que là, ça fait pas un grand débat national plein de démocratie, il faut encore faire d'autres choses, parce qu'il y en a quand même qui ont essayé de passer. Alors on filtrait, hein, ceux qui pouvaient rentrer dans Bourtereulde, déjà c'est pas facile à dire pour un premier jour, c'était seulement les personnes qui habitaient, les parents d'élèves et les personnes travaillant en ville. Et comment on fait pour faire respecter ça? Bon, on fait des barrages filtrants de partout, c'est jusqu'à 10 km de la commune où des gens étaient contrôlés par les policiers, ils ne pouvaient pas prendre l'autoroute, par exemple la fameuse A13 vers Caen, où les gens étaient obligés de faire demi-tour s'ils n'étaient pas de ce bled. Et puis donc aussi, si des gens ont quand même voulu tenter d'aller à ce grand débat sans y être invité, sans être du village, et bien qu'est-ce qui se passait? On les invitait à rebrousser chemin, donc dans ces contrôles, et si ils avaient le malheur d'avoir un gilet jaune, on les menaçait de payer 135 € d'amende. Bon, voilà. Aussi, parce qu'il ne faut jamais non plus éviter de faire un excès de zèle, et bien les flics, en plus de contrôler, ils prenaient en photo les cartes d'identité pour ficher les gens, voilà. Il y a quand même des gens qui ont réussi à rentrer dans ce joli village pour essayer de chahuter tout ça, et qui ont bien sûr été dispersés à coups de gaz lacrymogène, et il y a eu 2 arrêtés pour rébellion. Voilà comment on organise un grand débat national démocratique.
Et du coup, maintenant, on va vous passer un petit son qui a été pris pendant la manif du week-end dernier à Lyon. Donc voilà.
Donc là, on est pas loin de Bellecour. Donc on est au quai des Rhônes. Il y a, j'imagine, je ne sais pas, plusieurs milliers de personnes. Et voilà des gens qui citent un slogan Macron démission, beaucoup de gilets jaunes.
12 janvier, Lyon, acte 9. Gilets jaunes. Les nouveaux font leur manif.
C'est la première fois que vous venez en manif, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Aujourd'hui?
Aujourd'hui, c'est la première. Toute première.
Okay. et alors pourquoi aujourd'hui vous descendez justement pour la première fois?
Eh ben parce que déjà je suis là pour une fois, parce que je viens de la campagne à la base, et pour une fois que je suis restée sur Lyon un week-end, je me suis dit je vais venir. En plus maintenant j'ai mon gilet jaune, c'est tout nouveau. Voilà. Donc ouais, ça me donne à cœur de venir, et surtout je veux pas que le mouvement s'essouffle, parce qu'on a plein de choses à dire, on a plein de choses à demander.
Alors oui, on est carrément sur la voie qui longe le Rhône. Quelques petits pétards, mais vraiment aucune agressivité moi que je ressens autour de moi. Hein. À part un moment donné, quand les CRS sont apparus, bah, tout de suite ça met des tensions.
Ils veulent instaurer une certaine terreur en fait, ils veulent juste que le mouvement s'arrête, que les gens prennent peur, qu'on arrête de venir. Et tout à l'heure, j'ai croisé des gendarmes avec des flingues, des énormes fusils. C'est pas rassurant. On m'a filé du sérum physiologique au cas où il y ait des gaz lacrymo.
Alors, je faisais des manifs avant, mais par contre, c'est la première fois que je viens pour les Gilets jaunes, en fait. J'ai vu le message un peu de guerre de la part du Premier ministre. Des discours qui sont ultra sécuritaires, c'est-à-dire effectivement stigmatiser les manifestants et pas relativiser par rapport à l'ensemble des violences qui sont commises, notamment par les forces de l'ordre, quoi, en fait. Hein. Ni gauche ni droite en fait, mais je me sens fondamentalement touché par ce qui se passe sur la planète et notamment par le dérèglement climatique et donc et aussi à ce qui se passe en ce moment ici quoi. Donc voilà, je me sens sensible à tout ce qui peine les gens et tout ce qui les fait souffrir.
J'ai vu des tweets passer comme « Oui, les gilets jaunes sont pour l'égalité pour tous, alors si vous aussi vous pensez que chaque enfant doit être égal aux autres et doit avoir un papa et une maman, alors soyez contre la GPA et rejoignez les gilets jaunes. » Enfin, il y a de la récup dans tous les sens. C'est aussi une autre manière pour les médias de décrédibiliser la chose.
Et les esprits s'échauffent, quoi, tout simplement. Apparemment, tu vois, il y a une confrontation entre anti-fachos et fachos. Mais...
Ils sont moins nombreux quand même, les fachos, là.
Ouais, ouais, beaucoup moins nombreux. Mais tu vois, c'est eux qui s'échauffent, c'est eux qui s'échauffent.
Oh. Les fachos ?
Ouais, si tu regardes, ouais. Ah, c'est eux qui commencent à...
Ça se tape fort, là. C'est qu'il y a une dizaine de monarchistes, des nostalgiques de l'ancien régime qui ont essayé de s'opposer avec violence, on va dire, à un cortège beaucoup plus nombreux qui comportait quelques mouvements de gauche radicale.
Du coup, ils sont barrés là.
Du coup, ils sont partis un peu plus loin devant. Ils vont peut-être tenter de revenir, voilà, mais c'est une minorité, une toute fine minorité. Et voilà, qu'on essaye d'écarter au maximum du mouvement.
Et avant les Gilets jaunes, est-ce que vous faisiez des manifs ?
Non, du tout. Alors, on n'était pas du tout manifestation, mais bon, vu que là, c'est quelque chose d'assez nouveau, on va dire. C'est vraiment un soulèvement de tout le monde, de toutes les classes, toutes les religions, toutes les origines, tous les corps de métier, enfin, il y a vraiment de tout, quoi. Donc c'est pour ça, nous, on vient. Bah, le premier, on l'a fait dans notre campagne, là où on habite, dans le Beaujolais. L'acte 2, on était sur Paris. Après, les autres actes, on était sur Villefranche au péage. Et là, vu que Lyon, ça commence à bouger, bah, on vient à Lyon. Ça a ouvert les yeux à moi et à pas mal d'autres gens. Et du coup, bah, c'est vraiment un grand changement qu'il faut, quoi. C'est pas simplement la démission de Macron pour moi. Malheureusement, d'être pacifique, je sais pas si ça a marché longtemps. Au bout d'un moment, je pense que tout le monde va se rendre compte que ça servira à rien. Donc, à un moment, je pense que c'est la violence. C'est la violence qui va prendre le dessus après.
Attention, ça va gazer, vous allez avoir mal aux yeux. J'ai du sérum vie pour vous, mais ça va faire mal quand même.
C'est gentil. Tu m'as dit que c'était ton premier mouvement social.
Réellement, ouais. Je sais pourquoi je suis là et quelle cause je défends. Il y a les hôpitaux. Ils sont en train... En fait, ils enlèvent du personnel, sauf qu'il y a besoin. Je milite pour ma maman. Ma maman, elle est toute seule. Elle a deux enfants, elle a aucune aide parce qu'apparemment, elle a une... Enfin, elle touche un salaire moyen. Peut-être 200 euros de plus que le SMIC. Je dis pas qu'on est à plaindre. Je dis juste qu'il y a des aides. J'aimerais bien qu'elles soient mises autrement. Après, je suis peut-être débile et je suis peut-être trop pacifiste, hein. Je suis peut-être trop, je sais pas, mais je suis apolitique. Je suis ni droite ni de droite. Il y en a, ils sont là-haut, ils mangent leur caviar et ils pourraient nous aider un petit peu. Je demande pas qu'ils nous donnent, je sais pas combien, mais qu'ils aident un petit peu, qu'ils se rendent compte que ben, y a pas qu'eux et leur famille.
Je suis ni pour ni contre les casseurs, mais ils sont comme les autres, gilets jaunes, hein. Avant tout, solidaires, tous solidaires.
Est-ce que d'habitude vous faisiez des manifestations ?
Jamais, juste pour, depuis que je suis à la retraite. Et Castaner qui dégage. Moi j'ai été gazée plusieurs fois, hein. Est-ce que c'est normal ?
Moi, je comprends juste pas la police. Parce que je sais qu'en a, ils veulent faire un gilet jaune, mais pourquoi ils font pas ? Ils font un arrêt maladie. Ils disent pas, ils font un arrêt maladie. Ils peuvent.
Il y a une ligne de flics qui est prise entre deux, leur groupement de gilets jaunes. Et les flics sont en train de se reculer. Allez, les flics ont abandonné la rue. Tout le monde rentre. Et ça construit une barricade là au milieu de la rue, ça charge derrière. Ça, on va me marcher dessus. Je tombe les vénères. Ça gaze partout. La rue est gazée.
on court.
On a choisi ce soir de continuer à réfléchir autour de la question de ce mouvement des Gilets jaunes et de ne pas esquiver certaines questions, et on s'appuie pour ça sur un article qui a été proposé sur le site Paris Lutte Info, le site Mutu parisien. Dans cet article, ils reviennent déjà dans un premier temps sur ce pourquoi ce mouvement peut être important, ce pourquoi on a envie d'y être. Premièrement, par ses revendications sociales fortes et par la répression sauvage qu'il subit. Aussi parce que c'est un des rares mouvements de ces derniers temps qui a un rapport de classe qui ne va pas reprendre en fait le fait que ce soit des corps intermédiaires, des profs, des fonctionnaires, des cheminots et des étudiants qui soient à la tête de ce mouvement, et que pour une fois, c'est plutôt des gens de classe populaire, des prolétaires, qui vont prendre la rue et s'auto-organiser. Aussi et surtout parce que ce mouvement, il peut être fascinant par le caractère autonome qu'il prend, par le refus des chefs, par le refus de la délégation aux classes politiques, par l'envie de s'organiser localement dans chaque bled, dans chaque coin, dans chaque ville. Et en même temps, cet article y rappelle que l'extrême droite, elle n'est pas majoritaire dans ce mouvement, mais qu'elle reste présente dans les rues, même s'ils ne tiennent pas les rues. Il rappelle aussi que dans ce mouvement, il y a une partie du discours qui est proche des discours antisémites et conspirationnistes, et que ce mouvement il peut être perméable à ça. Il rappelle les failles des organisations d'extrême gauche, des mouvements libertaires, notamment la faible impact sur Internet et le manque de lien avec les gens de classe populaire. Et face à ça, il propose quelques perspectives pour venir dans le mouvement des Gilets jaunes et pour y trouver sa place.
On en a retenu quelques-unes. Par exemple, venir en manifestation avec des banderoles, des slogans et des tracts pour assumer nos positions politiques, celles pour lesquelles on se bat depuis des années. Ne pas se contenter également de posts Facebook ou Twitter et multiplier les participations. Impulser des assemblées générales plus propices à l'organisation collective. À Lyon, c'est par exemple depuis 2 semaines le rendez-vous tous les lundis soirs à la Bourse du Travail à 19h. Des assemblées d'ailleurs où il y a, en tout cas pour ces 2 premiers lundis, un monde fou. Troisième proposition de ce texte, dégommer les chefs, puisque à l'heure actuelle, les gestionnaires de groupes Facebook, par exemple, sont, ou en tout cas apparaissent comme les chefs du mouvement, les Drouet, Priscilla Ludowski, le très stupide et conspirationniste Maxime Nicole, tiennent en partie le mouvement, tout faire donc pour qu'il desserre l'étau sur ce mouvement. Et puis, dans tous ces espaces, et notamment les manifestations, ou autrefois les ronds-points, ou peut-être demain encore les ronds-points, tenir des positions claires sur différents points. Tu parlais de la perméabilité au discours complotiste et antisémite, et c'est une réalité. Rappelez que le capitalisme n'a pas de couleur, de religion. Macron n'est pas plus un outil des Rothschild que des Muliez ou d'autres grands groupes capitalistes. Le capitalisme français est français, il n'est pas extérieur. Et la mondialisation capitaliste n'a pas changé le rapport de classe en France. Il s'agit ici de rappeler que non, le peuple français n'est pas soumis aux diktats étrangers, au pacte de Marrakech ou à un lobby juif complètement fantasmé, mais bien à une exploitation locale qui fait largement l'affaire. Rappelez ici les nombreuses luttes préalables à la mondialisation. Autre point, une intervention pour préciser que le rapport de classe existe au sein du mouvement. Par exemple, Priscilla Ludowski, on vient d'en parler, est une petite patronne, et les petits patrons ont comme vocation souvent de devenir de grands patrons, et que des personnes qui gagnent 4 à 5 000 euros par mois n'ont sans doute pas les mêmes intérêts que des précaires ou par exemple des femmes de ménage à mi-temps. Le texte propose aussi d'apporter des banderoles, des textes pour dénoncer la présence du Front National dans ce mouvement, parce qu'on l'oublie souvent, on a tendance à mettre la focale, et à raison, hein, sur les petits groupes genre génération identitaire, bastion sociale, etc., qui viennent dans les manifs. Et on a raison de le faire, c'est bien de le faire, mais le Front National est en embuscade derrière tout ça. Et il ne faut pas l'oublier et donc tenir des positions qui sont clairement les nôtres, par exemple des revendications sociales. Alors oui, accompagner les discours qui parlent de la hausse du SMIC horaire, des réquisitions pour les logements vides, taper sur l'évasion fiscale, mais également sur le flicage des chômeurs, des gens au RSA. Et puis concernant le fameux RIC qui mobilise beaucoup l'attention des nouvelles et nouveaux manifestants, en tout cas d'une partie de ces gilets jaunes, rappeler que c'est sans doute pas du tout une position, pas vraiment parce que ça viendrait d'Étienne Chouard et de ses aquatas avec Soral, ce qui est une réalité là aussi. C'est pas tant ça le problème du RIC, c'est plutôt qu'il redonne du pouvoir à l'État et aux pantalonnades qui serviront toujours les intérêts politiciens, et que nous, sans doute, on préfère plutôt le fédéralisme ou les communes.
Et pour toutes ces raisons, on vous lit un petit appel qui a été publié sur Rebellion. Acte 10 des Gilets jaunes à Lyon, on vient et on se tient. Appel à rejoindre l'acte 10 des Gilets jaunes, samedi 19 janvier à 14h à Bellecour.
Nous sommes présentes et présents dans ce mouvement depuis le 17 novembre. Hésitantes et hésitants au début, il faut le reconnaître, nous avons très vite pris la mesure de la force et de l'audace incroyable qu'il déploie. Nous sommes aujourd'hui nombreux et nombreuses à y participer sur les points de blocage, comme lorsqu'il y a peu à Fézin, dans les AG, lors des différentes actions en semaine ou dans la rue, le samedi.
Y prendre part nous apparaît comme une évidence. Ces deux derniers mois, on a pu rencontrer des gens incroyables. Des gens avec qui le plus souvent, on ne partageait pas les mêmes vies, les mêmes imaginaires, mais avec qui il était facile de discuter, de s'organiser pour rendre effectif ce que voulait dire un blocage de rond-point, d'une infrastructure, d'un pays. On a pu y partager une même aversion pour la représentation et un même désir de s'auto-organiser localement et sans bureaucratie.
C'est parce qu'il est multiple que ce soulèvement est fort, qu'il est beau aussi. Pourtant, il faut admettre qu'on a vécu des moments de malaise, de doute et de rage aussi. La présence de groupes fascistes et identitaires est réelle. À Lyon, elle saute aux yeux. S'il ne représente qu'une frange ultra minoritaire du mouvement des Gilets jaunes, il est indéniable que les nervis du bastion social de Génération Identitaire et de l'Action Française imposent leur présence acte après acte. Ils profitent de moments de confusion pour agresser celles et ceux qui ne leur reviennent pas. Et pour la première fois, on se retrouve à marcher à côté d'eux, pour ne pas dire de leur côté. À leur côté. On a sûrement trop détourné le regard et depuis trop longtemps.
Alors ce texte est une invitation à prendre cette réalité en compte. Une invitation à faire attention les uns les unes aux autres. Ce samedi et tous ceux qui suivront, pour que nous puissions nous tenir ensemble sereinement et affirmer que leur présence n'est plus possible. À samedi.
Des gilets jaunes fâchés mais pas fachos.
International. Dans la rubrique internationale du Canu Info, on entend l'écho de lutte, on écoute des reportages insoupçonnés de manifestations à travers le monde, on évoque des thèmes variés comme le gaz de schiste
et d'exploitation de gisements de gaz de schiste,
les mouvements sociaux, les luttes et la France-Afrique. Bonne écoute dans la rubrique internationale.
Et donc, on va parler maintenant de
Cesare Battisti.
Merci. Il s'est livré sans résistance après 40 ans de cavale. Après avoir transité par le Mexique, la France, puis le Brésil, c'est à Santa Cruz, en Bolivie, que l'ancien activiste d'extrême gauche, Cesare Battisti, c'est bien ?
Tout à fait.
64 ans, a été appréhendé dans la soirée du samedi 12 janvier, donc samedi dernier. Dès le lendemain soir, un avion italien a emmené celui que l'Italie désigne, en tout cas le gouvernement italien désigne comme un terroriste. Cesare Battisti a atterri dans la capitale italienne lundi 14 janvier, en fin de matinée, et le gouvernement de Giuseppe Conte aura obtenu que le prisonnier ne fasse pas escale au Brésil. Et pourquoi ? Parce que c'était une affaire risquée pour l'extradition directe, l'extradition de Cesare Battisti, puisque le code pénal brésilien ne reconnaît pas la prison à perpétuité. Et donc, l'extradition aurait pu être soumise à un engagement italien de ne pas appliquer cette peine à l'ancien membre des prolétaires armés pour le communisme. Communisme, c'était son groupe, une des multiples fractions de l'extrême gauche italienne des années 70, très active, donc le groupe des prolétaires armés par le communisme, notamment entre 1976 et 1979. Bolsonaro, le nouveau chef fasciste du Brésil, aura tweeté à ce moment-là: « Le Brésil ne sera plus le refuge de marginaux ou de bandits déguisés en prisonniers politiques. » Et Bolsonaro était un peu frustré de n'avoir pu être l'un des protagonistes de l'emprisonnement définitif de celui qu'il a appelé aussi dans ses tweets le gauchiste. Arrêté en 1979 et condamné à 13 années de prison pour participation à une bande armée, Cesare Battisti s'est évadé de prison, de la prison de Frosinone en 1981 et a fui en direction de la France puis du Mexique. Les déclarations des anciens dirigeants de son groupe politique, qui ont été tous appréhendés et arrêtés en 1982, auront permis à la justice italienne de l'inculper dans 4 homicides, 2 fois en tant qu'auteur, 2 autres fois en tant que complice. Pour cela, il a été condamné à perpétuité par contumace en 1987, c'est-à-dire qu'il n'était pas au procès, mais il a été quand même condamné à perpétuité en Italie, d'où le fait que son retour en Italie, eh bien, va l'amener à purger une peine de prison jusqu'à la fin de sa vie. C'est ce jugement de 87 hein, par contumace a été définitif en 1993. Alors à Rome, le ministre de l'Intérieur Matteo Salvini a été le premier à remercier, là aussi sur Twitter, les forces de l'ordre boliviennes, brésiliennes et italiennes, puisqu'elles ont toutes trois joué main dans la main hein, pour appréhender Cesare Battisti. Et il nous dit, Salvini, qu'elles ont œuvré pour la capture d'un délinquant qui ne mérite pas une vie confortable au bord de la plage, mais qui devra finir ses jours en prison. Le ministre de la Justice, Alfonso Bonafede, a de son côté exprimé une pensée envers les familles des victimes. Voilà, le Brésil, on l'a dit, n'a pas non plus manqué de faire éclater sa joie, et peut-être plus encore que Bolsonaro, c'est son fils qui s'est lui aussi sur les réseaux sociaux manifesté cette phrase. Il a assassiné un policier, il a tué un père face à son fils, a laissé un homme paralysé, a été condamné à la prison à perpétuité pour 4 homicides qualifiés, faisait partie d'un groupe terroriste de gauche en Italie. Ciao Battisti, la gauche pleure. Cesare Battisti clôt donc l'épisode de son exil latino-américain, une troisième vie menée après ses années en France où il était plus ou moins protégé par la doctrine Mitterrand, plutôt moins en réalité. Il y a un très bon article qu'on n'aura pas le temps ici dont on n'aura pas le temps ici de parler sur Mediapart hein, qui montre qu'en fait il n'était pas vraiment qu'il était plutôt écarté de la doctrine Mitterrand, mais qu'il a réussi néanmoins à vivre en France, où il s'était mué en gardien d'immeuble d'abord, puis en auteur de romans policiers, et il n'a jamais émis le moindre repentir concernant son action politique passée. Et c'est en 2004, sous Chirac, que Cesare Battisti, a été placé sous contrôle judiciaire, et qu'il a été obligé de se barrer malgré des polémiques. En fait, la France ne le protégeait plus du tout. Il a donc repris sa vie clandestine. Et après avoir atterri clandestinement au Mexique, il s'est installé au Brésil. Il a été arrêté au Brésil en 2007, incarcéré pendant 4 ans. Il se met alors en grève de la faim. Préférant, disons, mourir au Brésil plutôt que de retourner en Italie. Et puis en 2009, la Cour suprême autorise son extradition vers l'Italie. Et là, à ce moment-là, Lula s'y oppose, lui offrant l'espoir d'une vie apaisée. Et Cesare Battisti reste toutefois sur ses gardes. En 2011, il accepte de rencontrer les journalistes du Monde, le journal français donc, à qui il confie ses états d'âme, et il perce des regrets, et il dit, je cite Cesare Battisti, il dit: il y a eu des fautes commises, c'est évident, mais prétendre changer la société avec des armes, c'est une connerie. Mais enfin, à l'époque, tout le monde avait des flingues. Il y avait des guerrieros dans le monde entier. L'Italie vivait une situation pré-révolutionnaire. C'est facile aujourd'hui de critiquer et de tout mettre dans le même sac. Voilà, alors justement sur cette situation pré-révolutionnaire italienne, ces années 70 italiennes, je terminerai avec quelques petits conseils de lecture un peu connus, notamment le gros livre qui recense cette décennie qu'on a appelée celle des années de plomb en Italie, dirigée donc la Horde d'Or. Ce livre s'appelle la Horde d'Or, il est dirigé notamment par Nanni Balestrini et Primo Moroni, et il y a également de tête comme ça le livre qui s'appelle Autonomie de Marcello Tari, et un petit livre autobiographique super bien, écrit par Alessandro Stella, qui est aujourd'hui professeur à l'EHESS et qui a lui aussi bénéficié de la doctrine Mitterrand, et qui s'appelle Année de rêve, année de plomb. Il est sorti il y a un an ou deux et c'est vraiment un très bon bouquin pour découvrir ces années.
Invisible et disponible, libre et irréductible.
Canu, info.
Invisible et disponible, libre et irréductible.
Attitude féministe.
Info du vendredi.
Et oui, parce que punchline féministe, parce que ce mardi 15 janvier, des milliers de femmes ont manifesté dans les rues d'Andalousie et dans beaucoup de villes du reste de l'État espagnol. Contre quoi ? Eh bien contre les négociations pour gouverner l'Andalousie entre les partis de droite, le Parti Populaire et Ciudadanos, et le parti d'extrême droite, Vox. Parce que ces trois partis négocient un programme ouvertement réactionnaire, anti-migrants-migrantes, anti-ouvriers, anti-démocratiques et surtout anti-féministes. Ces accords prétendent notamment expulser massivement les migrants. Donc il y a par exemple l'expulsion demandée par Vox de 52 000 immigrés sans papier et surtout l'élimination des aides au féminisme arrogant. Et donc comment ça passe ça, l'élimination des aides au féminisme arrogant ? Eh bien en fait, en abrogeant la loi globale sur la violence sexiste, en interdisant le droit à l'avortement et en promouvant en fait les formes familiales traditionnelles et compagnie. Il y avait aussi notamment pas mal de lois, de proposition de loi pour la protection de la tauromachie, de la chasse, des traditions et de la culture populaire. Autant vous dire, tout un programme et pas celui qu'on voudrait forcément. Notamment parce que Vox c'est aussi associé avec l'association ultra-catholique Asteoir, qui entretient des liens étroits aussi avec le PP et qui demande en fait la possibilité pour les parents d'exclure leurs enfants des activités d'éducation scolaire quand elles sont contraintes à leurs convictions, un plan de soutien intégral pour les familles, un conseil familial qui permettrait de la mise en place d'un système offrant des alternatives socio-économiques aux femmes ayant une grossesse non désirée, c'est-à-dire pour contrer l'avortement en fait. Donc du coup, face à ce programme ouvertement antiféministe et réactionnaire, les féministes andalouses ont répondu « Vous ne toucherez pas aux droits des femmes et on ne fera pas un pas en arrière ». Et donc le jour même du débat d'investiture, c'est plus de 200 collectifs qui ont appelé à faire des rassemblements en face du Parlement andalou à Séville, mais aussi dans toutes les autres provinces de l'Andalousie et d'autres villes espagnoles. Et ce mouvement n'est pas amené à s'arrêter parce que du coup ces 200 associations ont mis en place un calendrier de mobilisation et qui va du coup être un certain nombre de manifestations mais aussi de réunions et d'organisations au sein de toute l'Espagne, parce que les féministes andalouses se rendent compte bien que ce qu'on va tenter en Espagne ne va pas s'arrêter aux frontières, ce qu'on va tenter en Andalousie ne va pas s'arrêter aux frontières de l'Andalousie, mais va bien petit à petit concerner toute l'Espagne, qu'en fait c'est une sorte de laboratoire. Les féministes andalouses se disent donc qu'elles vont bénéficier en fait de ces 4 années pour être très 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 vigilantes et continuer à lutter, à avancer pour que les droits des femmes ne reculent pas, et surtout pour ne pas tomber dans le moindre mal en fait, parce que le risque de se pousser réactionnaire, c'est de tomber dans le piège du parti du gouvernement progressiste qui est actuellement au pouvoir dans le reste de l'Espagne, le PSOE, et qui dit défendre le droit des femmes, mais qui en réalité maintient des accords avec l'Église, qu'il finance sur des fonds publics ces accords, alors même qu'il dit qu'il n'y a pas assez de financement pour un plan en profondeur de lutte contre la violence sexiste, ou pour mettre en œuvre une éducation sexuelle complète dans l'enseignement public. Ce gouvernement aussi, c'est le gouvernement qui défend la banque alors que des milliers de femmes se trouvent expulsées de chez elles parce qu'elles ne peuvent plus payer leur loyer, qui entretient les inégalités salariales et le patriarcat. Et c'est aussi ce même gouvernement qui chasse les migrants et les migrantes, les emprisonne et les expulse. Et donc du coup, on se rend compte que le gouvernement du PSOE, en fait, c'est lui qui a permis l'apparition justement de cette alliance entre le PP, Ciudadanos et Vox. Et c'est pour ça que le mouvement des femmes du coup fait face à un énorme défi pour elles. Et ben en fait c'est déployer la force dans la rue certes, mais aussi approfondir la mobilisation en renforçant en fait les alliances avec les mouvements antiracistes, les collectifs d'immigrés, la classe ouvrière, les mouvements étudiants et étudiantes, les retraités et tout en fait toutes les composantes du mouvement social. Et donc du coup bah ça commence plutôt pas mal avec une première manifestation qui a réuni devant le parti andalou 3 000 personnes le 15 janvier du matin et le soir dans toutes les communes andalouses et des dizaines de villes dans le reste du pays. Ainsi, à Grenade, il y a environ 10 000 personnes qui ont défilé dans les rues de la ville. Et à Cadix, il y avait 3 000 personnes. À Barcelone, 3 000 personnes. Et tous ces rassemblements, en fait, préfigurent une mobilisation particulièrement forte pour la journée internationale de lutte pour les droits des femmes le 8 mars prochain. Et ben du coup, le Canu Info du vendredi et tout le Canu Info et tous les autres médias libres vous en tiendront bien sûr informés. Mais là, tout de suite, on file avec l'agenda.
Oui, et méga rapide, même sans jingle, et on vous dit juste, allez regarder Rébellion, mais surtout samedi, demain, 19 janvier, il y a un concert en soutien au comité Vérité Justice pour Mehdi. Mehdi, qui le 11 décembre 2016, à 28 ans, est décédé suite à
un pare-chocage. Un pare-chocage.
Oui, une tentative de contrôle policier. La police l'a pourchassé. Et pour la police, il s'agit d'un banal accident de la circulation. Et la famille et les proches de Mehdi, depuis plus de 2 ans, réclament l'ouverture d'une réelle enquête impartiale pour que la vérité soit connue et la justice rendue. Du coup, il y a plusieurs concerts. Pour l'adresse, envoyez un mail à jesuisanxieux@gmail.com.
On peut vous dire que c'est Vervoirvelin plutôt quand même.
Ouais, sinon voilà, vous pouvez regarder sur le petit bulletin où il y a l'adresse.
Voilà.
C'est un lieu qui commence par un G et finit par un Z.
Tout à fait.
Non, et R et D.
Non, il finit par un O. Ah, enfin bref. Ah ouais, c'est vrai. Enfin, le deuxième mot commence par un Z.
Et tout de suite.
Job.
Bonjour, je m'appelle Lily et j'ai 8 ans. Je voudrais savoir ce que ça veut dire ACAB.
Radio Canu, la plus nulle des radios.
Et ce soir, ACAB, ça veut dire...
All crack qui brûle, are beautiful.
Merci pour ce Canu Info. Et tout de suite, c'est Noise Pollution.
Noise Pollution.